Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. En quelques mois, il est devenu un des visages les plus marquants de la Macronie. Sa voix porte et il compte bien la faire entendre dans la campagne qui s'ouvre. Son projet de loi arrive cette semaine en commission à l'Assemblée nationale. Éric Dupond-Moretti sera dans un quart d'heure l'invité de RTL Soir. Et pour poser vos questions au ministre de la Justice et garde des Sceaux, vous nous appelez dès maintenant, ça se passe au 3210. Ou alors vous nous écrivez soit sur l'application RTL, soit sur les réseaux sociaux. Bonsoir Robert Nuccio.
Bonsoir Thomas. Bonsoir à tous.
On découvre avec vous les grands titres qui font l'actualité de ce lundi 3 mai.
Premier jour du procès de Nordal Lelandais, jugé pour le meurtre d'Arthur Noyer. Il dit n'avoir pas eu l'intention de tuer. Le déconfinement, étape 1, les indicateurs restent élevés, mais les chiffres en réa s'améliorent. Ni ministre, ni élu national dans sa liste. En PACA, Renaud Muselier s'explique après cette alliance polémique avec La République En Marche.
La météo, bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Alors demain, on va encore changer de
Oui, exactement. Puisqu'on a une perturbation qui arrive sur une large moitié nord, beaucoup de pluie toute la journée, un ciel couvert et de fortes rafales de vent. En revanche, il fera beau sur toute la moitié sud le matin. Dans l'après-midi, le corps pluvieux va légèrement se décaler vers le sud. La Normandie et les Hauts-de-France, du coup, retrouveront quelques éclaircies et le soleil va résister entre les Pyrénées et les Alpes. Et côté température, plus de gelée demain et des maximales comprises entre 12 et 17 au nord jusqu'à 22 au sud.
Merci à vous, Peggy.
RTL Soir.
Il dit n'avoir jamais voulu donner la mort. Nordal Lelandais est jugé depuis ce matin devant les assises de Savoie à Chambéry pour le meurtre d'Arthur Noyer. L'ancien maître chien de 38 ans maintient sa version, une bagarre qui aurait mal tourné. La cour a examiné cet après-midi sa personnalité et l'accusé tente de lisser son image, Anne Le Hénaff.
Oui, d'une voix calme, très posée, les mains sagement croisées devant lui, Nordal Lelandais, chemise bleue, ciel cintré et barbe poivre et sel, décrit sa vie, normale, une adolescence sans problème, sa passion pour les chiens, son entrée dans l'armée pour 5 ans. Il prend une fléchette dans l'œil d'un supérieur. J'avais plus la confiance de mes chefs, ça a été une des grosses causes de mon envie de quitter l'armée. Puis il enchaîne les contrats d'intérim, c'était mieux payé, explique-t-il. Il enchaîne aussi les femmes, mais elles ont toutes compté pour moi. C'était dans le respect à chaque fois, même chose avec un homme, une fois presque par curiosité. Ses problèmes avec les voisins qui parlent d'un homme agressif, il prend un air très étonné. Il avait la vie sexuelle dense d'un trentenaire, la honte de prendre de la cocaïne. C'était n'importe quoi, ce passage à vide en 2017. Mais rien qui ne permette d'expliquer pour l'instant les morts violentes d'Arthur Noyer et de Maëlys. À quelques mètres de là, la famille du jeune caporal le regarde, impassible. Ils sont venus avec une grande photo de leur fils souriant. Le président les a mis en garde ce matin. Un procès d'assises, c'est un lieu violent, un premier pas vers une reconstruction. Certes, mais aussi un lieu où on attend des réponses qu'on n'aura peut-être pas.
Anne Le Hénaff en direct de Chambéry pour RTL. Une enquête ouverte à Briançon après la mort de 3 skieurs dans le massif des Écrins dans les Hautes-Alpes. Un guide et ses 2 clients emportés par une coulée de neige à 3000 mètres d'altitude. Les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence sont en vigilance jaune avalanche.
18h03, on en vient au déconfinement étape 1 puisque les règles ont déjà un peu changé depuis ce matin. Plus besoin, Aude, de remplir d'attestation en journée.
Fin des restrictions de déplacement entre les départements et les régions. Retour en classe des collégiens et des lycéens. Emmanuel Macron assume son calendrier. Il nous faut vivre avec le virus, selon le chef de l'État. Odile Pouget, bonsoir.
Bonsoir.
Les indicateurs ne sont pas au mieux, mais ça commence enfin à baisser.
Exactement. Petit progrès tout d'abord concernant les nouvelles contaminations. On tourne aujourd'hui à 25 000 par jour. On était quand même à plus de 32 000 il y a 10 jours. Le taux de reproduction du virus diminue également. On est en dessous de 1. Cela signifie que l'épidémie régresse. Lente décrue du taux d'incidence avec une moyenne nationale à 302 cas pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, seuls 3 départements, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise, dépassent la barre des 400. Jeudi dernier, ils étaient 8. Sur l'hôpital, la pression se relâche très légèrement. Sur une semaine, on enregistre un peu moins de 400 patients de moins dans les services de réanimation. Ce n'est pas rien, mais attention, on reste encore sur des chiffres très élevés avec des hospitalisations légèrement en hausse ce soir et plus de 5600 personnes en soins intensifs.
5630 donc personnes en réa et 311 nouveaux décès liés au Covid ces dernières 24 heures. Merci à vous, Odile Pouget.
La prochaine étape, ce sera le 19 mai avec la réouverture des terrasses. Et comme le calendrier, la fin des aides sera progressive, mais les restaurateurs et patrons de café continueront à bénéficier du fonds de solidarité en juin, selon Bruno Le Maire.
Il était l'invité d'RTL ce matin. La réunion entre le ministre de l'économie et les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie s'est terminée il y a quelques minutes. Les annonces sont attendues dans les prochaines semaines. Et puis une victoire pour les cures thermales. Elles rouvriront aussi le 19 mai, mais avec une jauge de 50% après un arbitrage du gouvernement. Jauge fixée au départ à 30% des capacités.
Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui sera avec nous dans quelques minutes, parle de sucre rapide, d'un coup de pouce pour réduire les délais de jugement au civil.
1000 recrutements des greffiers, des juristes assistants sur une période d'un à trois ans. On parle de délai en moyenne de 18 mois pour une affaire. C'est donc une bonne nouvelle, mais loin d'être suffisante pour Maximin Sanson, juge à Bobigny et membre de l'USM, l'Union syndicale des magistrats.
Ce ne sont pas des magistrats, ils ne font pas les audiences, ils n'ont pas les critères d'indépendance qui garantissent aux parties qu'ils ont une décision équilibrée et impartiale. Donc je m'en félicite, mais ce qu'on voudrait, nous, c'est du personnel de greffe et des magistrats embauchés. En départage prud'homal à Bobigny, secteur dans lequel j'officie, il fallait 2 ans et demi pour saisir le juge. Depuis qu'on a mis 3 juges à temps plein, on a réussi à baisser les délais à 4 mois et demi. Donc quand on nous donne les moyens, on fait. On est habitué à travailler vite et à travailler bien. S'ils n'avaient pas pris la décision de baisser les recrutements, on aurait d'ores et déjà plus de gens en juridiction. Donc moi, je regrette qu'on ait cherché toujours à réduire les dépenses publiques sans jamais penser à la qualité du service qui est rendu.
Alors, le magistrat Maxime Sanson, membre de l'Union syndicale des magistrats, qui répondait à Cindy Hubert. Je vous rappelle que pour poser vos questions à Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, ça se passe en ce moment au 3210 ou sur l'application RTL. Petite pause et ensuite, cet accord entre Renaud Muselier et la candidate Les Républicains en marche qui passe assez mal du côté du parti Les Républicains.
RTL Soir, Thomas Sotto. RTL Soir, Thomas Sotto.
18h09, suite du journal avec vous, Aude Vernuccio. Ambiance de crise chez les Républicains après une alliance polémique et un peu floue en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Renaud Muselier a perdu l'investiture de son parti après son pacte avec la candidate LREM Sophie Cluzel. Initiative pour contrer la liste du Rassemblement National. Le président de région sortant rectifie le tir ce soir.
Notre région d'abord, cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord d'appareil, qu'il n'y a pas de fusion de listes. Et pour la composition de ces listes qui ne sont pas faites, je donnerai la priorité aux candidats qui s'engagent à se consacrer de toute leur force à des enjeux locaux et non nationaux, ce qui exclut les détenteurs de mandats nationaux, que ce soit les ministres, les députés, les sénateurs et les députés européens.
Donc pas de Madame Cluzel sur votre liste ?
Il y a un certain nombre de personnes qui veulent rentrer sur la liste, qui peuvent y rentrer d'ailleurs, et on verra en son temps le choix qu'ils feront par rapport à la stratégie nationale, régionale, et donc on va trouver les solutions en son temps.
Pas de ministre, pas d'élu avec un mandat national. Marie Mollet, c'est
une alliance ou c'est pas une alliance ?
Ah oui, totalement. C'est la question qu'on se pose, parce que sans ministre en marche, sans député en marche, on a du mal à voir ce soir ce qu'il reste de l'accord passé avec Jean Castex. Ce qu'on comprend en revanche, c'est que Renaud Muselier tente l'impossible pour se sortir du bourbier dans lequel il est plongé depuis hier, et la droite avec lui. Avec cette étrange voie médiane, une liste 100% locale, sans poids lourds nationaux, ni En Marche, ni LR, une sorte d'ovni politique où les barons, les figures locales ne sont plus les bienvenus. Par exemple, exit le LR Julien Aubert, pressenti pour mener la liste dans le Vaucluse. On est chez les fous, lâche un cadre des Républicains. C'est donc ce soir l'ultime rebondissement de ce feuilleton qui peut encore réserver des surprises. Reste à savoir comment cette volte-face sera reçue par La République En Marche, car si l'on comprend bien, la ministre marcheuse Sophie Cluzel ne figure plus sur la liste ce soir.
Oui, elle a tout perdu, là.
À moins qu'elle ne démissionne, va-t-elle troquer sa place au soleil au gouvernement pour un poste de conseillère régionale ? N'est pas encore tranché.
Ouais, c'est plus le en même temps, c'est le va comprendre. Ouais. Merci beaucoup à vous, Marie Mollet. Le sport.
Et on passe au football. J-1 avant le choc Manchester City-PSG. Demi-finale, retour de Ligue des Champions. Les Parisiens sont arrivés en Angleterre en début d'après-midi. L'entraînement de fin de journée fera office de test pour Kylian Mbappé. La star sera-t-elle rétablie de sa blessure au mollet ? Côté Citizen, Pep Guardiola ne manque pas d'assurance ce soir.
Il faut que mes joueurs comprennent que ça va être une grosse bataille, un match dur, qu'ils vont souffrir par moments. Mais je pense aussi qu'on saura bien réagir. Ce que l'on a à faire, c'est juste de réaliser ce que l'on fait depuis 7-8 mois. Jouer le match et gagner, c'est tout. Je ne leur demande rien de spécial. Tout dépend des joueurs, de leur envie de faire quelque chose de fantastique pour nous tous, pour le club, de faire un truc dont on se souviendra toute notre vie. Et on va le faire.
Des propos recueillis par Nicolas Georgerot pour RTL. Manchester City PSG, ce sera demain à 21h et à suivre en intégralité dans RTL Foot.
Bon, ça sera peut-être la bonne nouvelle de 23h demain soir, hein, PSG Manchester City, mais celle du jour alors.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et ce sont même des bonnes nouvelles avec le retour des concerts dès le mois de juin sans attendre le résultat des concerts tests. Pierre-Alexandre Vertadier, patron de Décibel Productions, se lance et il détaille le programme sur RTL.
Spanaclock va commencer sa tournée de rodage dès le mois de mai. Kenji va jouer à Paris avant de faire les festivals. Alain Souchon va enfin pouvoir reprendre la route, jouer à Paris au Palais des Sports avant d'attaquer les festivals. Louis Chédid à l'Olympia et puis bien d'autres cet été pour le coup en festival. On sera en mesure de présenter les spectacles de Benjamin Biolette, soprano. Il va parfois falloir replacer du public sur différentes séances, parfois rajouter des séances. On n'a aucune certitude sur la façon dont le gouvernement va nous aider avec la perte de billetterie liée à ces 65% de distanciation. On parlera d'argent plus tard et j'espère qu'on sera aidé. Mais je suis plutôt prêt à jouer le rôle de cobaye parce que je pense que c'est important.
C'est presque toi, presque moi, ces amoureux dans la cour. C'est presque nous, presque vous.
Rien que de l'entendre, on l'imagine sur scène et ça fait du bien.
Oh oui, ça fait du bien. Rendez-vous le 22 juin prochain au Palais des Sports et c'est une tournée RTL.
Une autre peut-être de Souchon. J'espère que c'est pas ce qui m'attend avec Éric Dupond-Moretti dans un instant, mais bonjour, merci Grégory Caranoni en régie de me mettre en condition. Ram, rameur, ramé, merci Aude et à tout à l'heure. Tout de suite, donc le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti et l'invité d'RTL. Posez-lui vos questions en nous appelant au 3210 sur les réseaux sociaux ou sur l'appli RTL. À tout de suite.
RTL Soir, Thomas Sotto. RTL Soir, Thomas Sotto.
Il défendra à partir de mercredi devant l'Assemblée son projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Éric Dupond-Moretti.
Bonsoir, monsieur Sotto.
La justice est trop lente, hein. C'est un reproche qui lui est fait depuis longtemps. Plus qu'une impression, c'est souvent un fait. Une situation qui s'est aggravée, notamment depuis le début de la crise sanitaire il y a un an. Pour tenter d'améliorer les choses, vous annoncez, Éric Dupond-Moretti, le recrutement de 1000 personnes. Elles vont arriver quand? Elles vont faire quoi, ces personnes?
Elles vont arriver dans 3 mois. Alors, le plan de bataille que je veux livrer pour raccourcir les délais, il s'articule selon deux axes différents. D'abord, j'ai demandé au président du tribunal judiciaire de Bobigny de piloter un groupe de travail composé de magistrats, de greffiers, d'avocats pour trouver les solutions. 43 propositions ont été présentées cet après-midi. Ce sont des propositions faites par des professionnels. Pour des professionnels, j'en retiens une, c'est le développement de la médiation. La médiation, c'est nous avons un litige et nous souhaitons le régler finalement amiablement. On ira beaucoup plus vite dans le cadre de ce règlement.
Parce qu'on se met d'accord et qu'on évite de passer devant les juges ?
C'est ça, exactement. On dégage du temps judiciaire, ce qui permet aux magistrats qui sont dégagés de cette tâche d'aller travailler ailleurs et de déstocker. Pour que l'on ait un peu une ampleur de l'ampleur de la difficulté, c'est 1 300 000 dossiers qui sont en stock. Et moi, je vais apporter, dans les 3 mois qui viennent, 1 000 personnels supplémentaires, des juristes assistants et des renforts de greffe. Sachant qu'un juriste assistant, quand il est aux côtés d'un magistrat, ça permet au magistrat de doubler le nombre de décisions qu'il rend.
Alors ça veut dire, pardon, mais aujourd'hui, le délai moyen pour la justice civile, hein, parce que l'on parle de justice civile, c'est 14 mois en première instance et c'est 17 mois en appel, je crois. Avec ces effectifs supplémentaires, à combien vont passer ces délais? Quel est l'objectif que vous êtes fixé?
L'objectif, c'est de réduire à 6 mois dans les 3 ans qui viennent. Alors qu'est-ce que c'est la justice
civile? Donc toutes les affaires civiles seront jugées dans les 6 mois, dans 3 ans.
C'est évidemment l'ambition qui est la mienne. Et qu'est-ce que c'est la justice civile? C'est le divorce, c'est la garde des enfants, le droit de visite, d'hébergement, c'est la tutelle, c'est l'expropriation, c'est les dettes. Voyez-vous, vous me devez de l'argent, je ne parviens pas à le recouvrer, je recours à la justice. C'est un problème de clôture, c'est un problème d'arbre qui donne de l'ombre dans la propriété.
Voilà. Tous ces petits problèmes qui sont importants pour ceux qui les vivent, mais qui encombrent les tribunaux.
Ouais, ouais.
Mais est-ce que c'est, vous dites l'objectif c'est dans 3 ans, sauf que j'ai regardé ces emplois, ils ne seront pas pérennes. Ils sont pour 3 ans, c'est ça? Ou pour 1 an?
Alors, 500 de ces emplois sont pour une durée de 3 ans.
D'accord.
Et 500 de ces emplois pour une durée de 1 an. C'est pour amorcer la pompe.
Mais pardon, mais dans 3 ans, donc si les 500 qui sont là pour 3 ans repartent, on va repartir dans un goulet d'étranglement, non ?
Mais on va pas repartir dans un goulet d'étranglement, parce que d'abord, il y a 3 raisons là, à ce retard. Il y a d'abord une situation qui existe depuis longtemps. Il y a la Covid-19, évidemment, et puis l'arrêt de la justice à un moment donné. Et puis il y a aussi, il faut le dire, la grève des avocats. Tout ça, ça a impacté le travail des magistrats et ça a évidemment généré ce retard. Ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est que la mise en œuvre des solutions préconisées par le rapport qui m'a été remis tout à l'heure par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, et ce plan d'embauche massif, je veux quand même qu'on s'y arrête une petite seconde, c'est un plan d'embauche historique, parce que nous avons embauché ces 1000-là, nous allons les embaucher, mais nous en avons embauché 1100 déjà.
Ces 1000-là, c'est dans le budget, les 8% de plus du budget 2021 de la justice, ou c'est encore une enveloppe supplémentaire ?
Vous savez que les parlementaires, dans leur grande sagesse, permettent un dépassement de l'enveloppe.
Donc c'est en plus ?
C'est parfaitement envisagé quand la loi sur le budget est votée. C'est en réalité 15 millions d'euros. Mais c'est, à y regarder de près, plus de 2000 personnels qui ont été envoyés dans les juridictions. Et pour que les auditeurs comprennent bien de quoi je parle, c'est 10% d'augmentation en personnel dans toutes les juridictions. Mmh. Tout à l'heure, à Bobigny, j'ai fait la connaissance de 22 juristes assistants renfort de greffe qui ont été embauchés dans le cadre de la justice pénale de proximité. Et j'aurai dans les jours qui viennent les premiers résultats. Je communiquerai sur ces résultats parce qu'ils sont, je le dis, excellents.
Mais est-ce qu'on n'a pas justice besoin pénale, aussi, pardonnez-moi, et peut-être surtout de magistrats, Éric Dupond-Moretti ?
Alors, il faut que vous sachiez que dans le bilan régalien du président de la République, moi je peux vous donner un chiffre, qui est le chiffre de 9000 magistrats. Il n'a jamais été atteint. Et ce qu'on appelle le taux de vacance, je ne veux pas être trop technique, est nul en ce qui concerne les magistrats. Mais il faut aussi que vous sachiez qu'on se heurte à des difficultés qui sont les suivantes. Il faut 31 mois pour former un magistrat. C'est pas en claquant du doigt. Moi, je suis à la chancellerie depuis 9 mois. Ce n'est pas en claquant du doigt des doigts, pardon,
mais on en forme moins, là. On en formera 195 en 2021 contre 250 les années précédentes.
Non, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a le tour extérieur, voyez-vous, compris, qui a été plus fourni. Non, ça n'est pas vrai. Et je vais vous dire autre chose, le taux de vacances, je l'ai dit, nous l'avons réglé. Reste la difficulté du greffe, et c'est la raison pour laquelle j'envoie des renforts de greffe, parce que l'école des greffiers tourne à plein. Vous savez, tout ça, nous l'avons sous-pesé, nous l'avons analysé, et je le redis pour ceux qui nous écoutent, qui ont des entreprises ou qui travaillent dans des entreprises, c'est un apport de 10% de personnel en plus. Et avec ça, pardonnez-moi, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Je vous rappelle, je le redis, pardon, mais c'est pour moi extrêmement important qu'un juriste assistant auprès d'un magistrat, ça double le nombre de décisions rendues.
Éric Dupond-Moretti, vous avez une formule assez choc, assez efficace. Vous dites que ces 1000 postes, c'est du sucre ultra rapide. Sauf que le sucre ultra rapide, tous les nutritionnistes vous le diront, ça booste sur le moment, mais ça coupe les pattes juste après. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous diraient que c'est du court-termisme, voire que ça sent la campagne présidentielle ?
Je réponds qu'avant même de rentrer à la chancellerie, alors qu'il n'y avait pas pour moi de question de campagne présidentielle, j'avais entendu beaucoup de magistrats, beaucoup de greffiers, beaucoup d'avocats me dire que la première difficulté, c'était le manque de personnel. Voilà ce que je réponds. Je réponds également que, en ce qui concerne la justice pénale de proximité que nous avons initiée, elle porte dès à présent ses fruits. Et ces chiffres, naturellement, que je communiquerai. À Bobigny, par exemple, on est passé de 1600 dossiers en stock au pénal à 1300 dossiers. 300 dossiers qui ont été réglés en 3 mois.
Donc je répète, dites, sur la base de cette expérience, ça fonctionne.
Je répète, pardonnez-moi, parce que les mots sont importants, parfois les chiffres le sont aussi. 300 dossiers de moins en 3 mois. Donc on va pousser ce coup de boost, ce coup d'accélérateur, parce que les Français pensent, et ils ont raison, que leur justice est trop lente et ça touche leur vie quotidienne.
Et il y a des affaires qui font beaucoup réagir les Français et nos auditeurs notamment. Notamment la semaine dernière, la libération de 3 détenus, un pour trafic de drogue et les autres pour violence conjugale. Lundi dernier, ils devaient être transférés de leur prison vers le tribunal de Valence, sauf qu'il n'y avait pas d'agents disponibles pour les escorter. Résultat, ces 3 détenus ont été libérés. Est-ce qu'elle n'est pas là la grande misère de la justice aujourd'hui ?
Non, alors là, c'est un concours de circonstances tout à fait particulier. Je veux en savoir plus. J'ai demandé au service que l'on me dise exactement ce qui s'est passé. Je tiens à vous dire, bien sûr, que d'abord, ils sont reconvoqués. Ceux-là, ils seront jugés prochainement. Et deux d'entre eux
étaient
poursuivis.
Mais ils sont en liberté aujourd'hui, y compris ceux qui sont poursuivis pour violence conjugale.
J'entends bien des couacs. Il en arrive, malheureusement. Et voyez-vous, il y a 850 000 décisions qui sont rendues au pénal. Il y a parfois quelques couacs qu'on ne peut pas ne s'arrêter que là-dessus.
Bien sûr, Évidemment, c'est pas ça, mais qu'il se passe un drame. Imaginez ce qui se passerait derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, la justice doit accepter l'idée de certains couacs ?
Mais, monsieur, la justice, la presse, la police, enfin, tous ceux qui font et qui travaillent sont parfois confrontés à des choses de cette nature. Mais quand même, sur cette question, ce que je tiens à vous dire, c'est qu'on a immédiatement, il y avait deux hommes qui étaient poursuivis pour des violences conjugales, on a immédiatement pris attache avec celles qui ont déposé plainte et on les a dotés d'un téléphone grave danger. Et je peux vous dire, monsieur, que la situation est sous contrôle. Malheureusement, il arrive des couacs. Mais je vais vous dire autre chose, vous avez le chic, mais c'est comme ça. Pour vous arrêter sur ce qui ne va pas, est-ce que vous ferez
un mot,
monsieur Soto, c'est important tout ça. Est-ce que vous ferez un mot dans votre chronique, dans cette interview que vous faites du garde des Sceaux, pour dire que telle décision a été bien rendue et que les choses ont bien marché.
Voilà, on vient d'expliquer pendant 10 minutes que c'était plutôt bien d'embaucher 1000 personnes pour accélérer la justice civile.
Vous avez dit que c'était bien. Moi, je l'ai dit parce que je pense que c'est bien. Mais on s'arrête sur les trains qui sont en retard. On ne peut pas empêcher un certain nombre de choses. Et ça me permet de redire ici, très sereinement, que ceux qui promettent la Lune, que ceux qui promettent le risque zéro sont des incompétents et des menteurs. Et je pense que tous ceux qui ont les mains dans le cambouis, qui travaillent et qui nous entendent en ce moment, savent que parfois, les choses marchent pas bien. Le tout, c'est de savoir pourquoi elles n'ont pas bien marché, d'en tirer les conséquences quand il y a des conséquences à tirer, et de faire en sorte de faire au moins mal possible. C'est ce que nous avons fait en l'occurrence, et je vous redis, si ça vous rassure, que la situation est sous contrôle.
Question de Franck, auditeur d'RTL. La justice des mineurs, écrit-il, est indigente en France. Il faut parfois un an et demi ou deux ans pour qu'un jeune soit jugé. Ça n'a plus aucun intérêt. Quand vous attaquerez-vous au problème ?
C'est fait parce que je me suis battu pour porter un texte qui s'appelle Code de justice pénale des mineurs. On est passé de ces délais qui sont parfaitement justes. Votre auditeur est parfaitement informé, 18 mois. Et maintenant, on a considérablement réduit les délais. Parce que l'on s'est attaqué à l'ordonnance mythique qui est l'ordonnance de 45, la grande ordonnance du général de Gaulle, qui était devenue totalement illisible. Et maintenant, un jeune, parce que c'est ça qui compte, dans les 3 mois, il comparaît devant le tribunal pour enfants.
Il reconnaît sa culpabilité ou pas.
Qu'il décide ou non de sa culpabilité. Ouais. S'il n'y a pas d'éléments de preuve, la culpabilité n'est pas retenue. Et dans un délai, qui peut être tout compris de 9 mois, il est à la fois mis sous épreuve et à la fois, il va recevoir la peine qu'il mérite.
Donc c'est un an maximum, dorénavant.
Ça veut dire... Ah non, c'est moins que ça. Et ça veut dire, en réalité, que vous avez des gamins qui, aujourd'hui, dans le système actuel... pouvaient être jugés quand ils avaient 21, 22 ans, alors qu'ils avaient commis des infractions quand ils en avaient 16. C'est terminé. Et pourquoi c'est terminé ? Parce que nous avons estimé, et à très juste titre, je pense que tout le monde va l'entendre, qu'un gamin, il doit recevoir l'avertissement pédagogique, car il y a aussi de la pédagogie dans les décisions de justice, tout de suite, le plus vite possible. Donc je rassure notre auditeur du moment pour lui dire que ce texte est voté et qu'il entrera en application à compter du mois de septembre.
Autre affaire, Éric Dupond-Moretti, qui a défrayé la chronique et a même mobilisé des milliers de manifestants, c'est l'affaire Halimi, du nom de cette femme, Sarah Halimi, tuée par un homme déclaré irresponsable pénalement et qui ne sera donc pas jugé. Votre prédécesseur Nicole Belloubet avait commandé un rapport sur le sujet. Vous avez promis de faire évoluer la loi. Il y aura donc un texte après avoir mené des consultations. Vous l'avez expliqué, vous y tenez. Ça sera pour quand ? Est-ce que vous avez déjà une idée de calendrier ?
Fin mai.
Et est-ce que vous avez déjà des pistes ?
Bien sûr que j'ai des pistes. J'ai des pistes parce que j'ai lu ce rapport. Parce que j'ai lu l'arrêt de la Cour de cassation.
Le rapport qui, grosso modo, dit qu'il n'y a pas besoin de tout changer.
C'est vrai, mais le rapport ne prend pas en considération la décision qui a été rendue par la Cour de cassation. Parce que j'ai lu également l'avis du magistrat du parquet général qui s'est exprimé lors de cette audience de la Cour de cassation, parce que j'ai rencontré des psychiatres, j'ai rencontré les représentants des différentes religions, je vais rencontrer des magistrats et j'ai déjà commencé à le faire, et je vais rencontrer également des avocats. Et me nourrissant de tout cela, parce que je veux me nourrir de cela, et c'est bien comme ça que les choses, à mon sens, doivent aller, c'est en tous les cas ma méthode, eh bien, le texte sera prêt au mois de mai, et il prendra en considération différents éléments.
Est-ce que l'idée, c'est de faire en sorte de déclarer qu'il y ait moins de gens irresponsables ou pas ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout, mais vous verrez, ce texte, je pense qu'il sera équilibré. Ce que je veux dire ici, c'est que, bien sûr, il n'est pas question de juger les fous, parce que ce serait une régression.
Principe français, en France, on les juge pas, on les soigne.
Mais bien sûr, dans tous les pays civilisés, on jugeait les fous au Moyen-Âge. Je ne veux surtout pas que l'on aille vers cela. Je veux prendre toutes les précautions. Je pense que le texte sera un texte équilibré et qu'il répondra pour partie à la grande émotion que nous avons ressentie ces jours derniers autour de cette question.
Est-ce que, par exemple, le fait de fumer de la drogue pourra devenir un cas d'exclusion systématique de l'irresponsabilité ?
Laissez-moi travailler, je n'ai pas terminé mon travail, et réinvitez-moi quand tout ça sera prêt, et je vous donnerai le détail de ces mesures que je compte prendre.
Emmanuel Macron est intervenu à deux reprises pour commenter cette décision de justice. Bien sûr, on peut comprendre l'émotion qui a été très largement partagée dans le pays, mais est-ce que c'est le rôle du chef de l'État de commenter une décision de justice ?
Je ne sais pas s'il a commenté une décision de justice, le chef de l'État. Il a dit son émotion, et il a eu raison de le dire.
L'examen de votre projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire va donc arriver à l'Assemblée après-demain, Éric Dupond-Moretti, en commission pour commencer. On y trouvera notamment la possibilité de filmer les procès. Ça, c'est un point qui vous tient vraiment à cœur. Déjà, pourquoi ? Pourquoi ça vous semble tellement important ?
Pardon, la transition est intéressante avec l'affaire dite Halimi, que vous avez évoquée il y a une seconde. Le procureur général près la Cour de cassation lui-même, qui s'inquiète que l'on puisse critiquer la justice, a dit que lorsqu'on la filme, la justice, on peut se rendre compte d'un certain nombre de choses très très précises et sur la façon dont elle a réellement fonctionné. C'est ça que je veux. Je veux tout, sauf du trash, je veux de la pédagogie. Vous voyez, ça évitera par exemple qu'on dénature le réquisitoire de l'avocat général dans l'affaire Viry-Châtillon. Vous savez ce qu'en a fait Madame Le Pen. Elle a raconté n'importe quoi en disant que l'avocat général s'était adressé aux accusés en leur disant finalement mes petits chéris. Enfin,
et vous lui avez répondu ici
et
même.
Et je d'ailleurs. Lui ai répondu ici même. J'avais la chance d'avoir, si j'ose dire, un avocat général qui avait écrit son réquisitoire. Eh ben, c'est ça que ça permet.
C'est-à-dire que permet... tous les procès vont être filmés à terme ?
Alors, tous les procès vont être, pas tous les procès, certains procès vont être filmés, ils ne seront diffusés que lorsque, et c'est extrêmement important, la décision est définitive. Ils prendront bien sûr en considération le droit à l'image, la présomption d'innocence, le droit à l'oubli, enfin toutes les précautions qui s'imposent.
Mais comment ça va marcher, le droit à l'oubli ? Parce que imaginons un procès qui est diffusé, rediffusé,
on n'a plus le droit de rediffuser au-delà d'un certain délai. Le droit à l'oubli, c'est compliqué. Attendez, le droit à l'oubli, c'est très compliqué parce que vous-même, lorsque vous parlez d'une affaire, vous pouvez très bien décider de ne plus en parler. Mais vous avez les réseaux sociaux, vous savez, qui peuvent revenir sur le dossier. Voilà.
Donc, ce sera combien de temps, le délai au-delà duquel on n'aura pas le droit de rediffuser un procès ?
Ce sera 10 ans.
10 ans. Ouais. L'intention est louable, beaucoup le reconnaissent, mais ça va avoir un coût, tout ça. On parlait du manque de moyens de la justice. Ça va coûter combien de filmer tous les...
Enfin, ça coûte rien au ministère de la Justice. Je veux rassurer les contribuables.
Et qui va payer alors ?
Et qui ont les mêmes inquiétudes que vous à cet instant. Ben, c'est la télévision qui viendra filmer ça, qui financera tout cela. Les éléments techniques, les moyens techniques, c'est la chaîne de télévision qui diffusera.
Donc ce sera le service public en l'occurrence ?
Ça n'est pas encore tranché, mais j'ai une petite préférence pour le service public.
Donc c'est de l'argent public, hein, c'est le service public.
Oui, ouais, j'entends bien.
C'est pas le même budget, c'est pas la même poche, mais...
Allons vers le privé, alors. Mais moi, je veux, vous le savez, enfin, je l'ai dit, qu'on prenne d'infinies précautions. Il y a quelque chose d'ailleurs que j'ai oublié de vous dire, c'est que après la diffusion d'un film, je souhaite qu'il y ait un magistrat, un avocat, un policier, de préférence un professionnel qui n'a pas participé au procès que l'on aura vu, pour expliquer. Les Français ont besoin de connaître leur justice. Ils ne la connaissent pas suffisamment. Il y aura aussi des procès civils, des divorces, des choses de cette nature. Mais pour les procès qui n'ont pas vocation normalement à être publics, Alors, bien sûr, on demandera les autorisations.
Dans le projet de loi, vous ne voulez plus des réductions automatiques de peine de prison. La question que se posent certains observateurs, c'est est-ce que mécaniquement, s'il n'y a pas de réduction de peine automatique, ça ne va pas encore augmenter la surpopulation carcérale, Éric Dupond-Moretti ?
J'ai lu que l'on disait que ça augmenterait la population carcérale. Oui, on a lu ça dans Le Monde. Et d'ailleurs, Le Monde a écrit que c'était grâce aux chiffres que nous avions communiqués.
Moi, je n'ai pas compris comment ça fonctionnait.
Mais moi, je peux vous dire que c'est faux.
D'accord.
Mais je vais aller plus loin, monsieur. Moi, je n'ai pas envisagé de revenir sur les crédits de peine pour des raisons de régulation carcérale. Qu'est-ce que l'on a comme régime aujourd'hui ? On a en réalité deux régimes. Il y en a un qui est fondé sur l'effort, qu'on appelle les RPS, je ne veux pas être trop technique, et l'autre, des crédits qui sont accordés aux détenus sans qu'il fasse l'ombre de l'once d'un effort.
C'est ce qu'on appelle les réductions de peine automatiques.
Je veux supprimer, très clairement, ces crédits automatiques. Il n'y a rien d'automatique dans la vie. Les gens qui nous écoutent, ils rentrent du boulot pour certains d'entre eux, ils sont dans les embouteillages, ils savent ce que c'est l'effort. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait une prison avec des règles qui ne soient pas les mêmes sur le plan philosophique, que celle de la société civile. Le sens interdit...
Sauf que mécaniquement, Éric Dupond-Moretti, si on dit qu'on laisse sortir les gens moins vite...
Non, parce que...
C'est pas de l'arithmétique ?
Non, c'est pas de l'arithmétique. Nous avons fait expertiser tout cela.
Ouais.
Ce que dit le journal Le Monde n'est pas vrai. J'y reviens. Mais au-delà de ça, moi, je vous dis que cette décision que j'ai prise, que j'ai mûrement réfléchi et qui se nourrit de mon expérience d'avocat, elle m'amène à vous dire que moi, je ne suis pas là pour faire de la réduction de peine, de la réduction carcérale comme ça. Je veux réinsérer. Et c'est ça que je veux que vous entendiez, que je souhaite, pardon, que vous entendiez. En réalité, quand on incite à l'effort, le détenu y gagnera, la société ils gagneront.
Donc vous pariez sur le fait qu'en faisant des efforts, ils auront quand même leur réduction de peine, mais ils les auront méritées et qu'ils sortiront au même moment, c'est ça ?
Ils n'auront leur réduction de peine que s'ils font l'effort. Et l'effort, c'est quoi ? C'est apprendre à lire, c'est se soigner, c'est travailler quand on peut, c'est se former. Et ça, c'est un gage de réinsertion pour tous ceux qui, comme nos concitoyens, sont dans la société civile. Et puis, pardon, c'est mettre debout des gamins qui se lèvent à midi. C'est les faire se lever à 8 heures, apprendre à lire. Et vous savez, la première fois que j'ai rencontré les syndicats pénitentiaires, ils m'ont dit, monsieur le ministre, il y a des gens qui entrent en prison, ils ne savent pas lire. 5 ans plus tard, ils sortent, ils ne savent toujours pas lire. Je veux mettre un terme à cela. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai préparer, vous le savez, un contrat de travail.
C'est dans le projet de loi également.
Et c'est la raison pour laquelle, ça vous ne le savez pas, j'ai commencé à contacter les patrons. Les patrons des grosses boîtes, les patrons des petites boîtes, les artisans, pour venir donner du travail en prison. Parce que quand on donne du travail en prison, à Erningen,
par exemple, quel groupe ?
À Erningen, par exemple, en Alsace, je termine ma phrase et je vous réponds, il y a aujourd'hui, période Covid, qui est une période difficile, 70% de détenus qui travaillent. Eh bien, ceux-là, ils ne perdent pas les codes de la société et naturellement, ils sont mieux réinsérables.
Alors, quel groupe ?
À Erningen, par exemple, il y a une grosse boîte allemande qui est venue donner du travail. Il y a également Emmaüs, qui donne aussi une formation diplômante.
Il y a des groupes du CAC 40, des groupes comme ça, vous allez les voir également ?
J'ai contacté, je continuerai à contacter tout le monde, et là encore, dès que j'aurai des assurances, j'ai déjà un certain nombre d'engagements, je veux des assurances, je veux des réalisations, je viens de faire une cartographie des établissements pénitentiaires pour que les entrepreneurs puissent choisir. Vous imaginez que quelqu'un, un entrepreneur qui est à Dunkerque, ne va pas forcément investir dans une prison du sud de la France, donc j'ai fait cette cartographie pour amener le travail. Je souhaite aujourd'hui que les réductions de peine soient accordées à l'effort. Et je dis que, arithmétiquement, ça n'entraîne pas du tout ce que j'ai pu lire. Et de toute façon, je le dis très clairement, mon but et mon seul but, c'est de réinsérer le mieux possible pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous savez, pour moi, la prison, c'est très très clairement trois choses. C'est punir, bien sûr, bien sûr. C'est mettre à l'abri des individus dangereux pour ne pas qu'ils commettent des infractions. Voilà, protéger la société. Et c'est chaque fois que c'est possible, chaque fois que c'est possible, réinsérer.
On a pris le temps de l'explication, j'ai quelques questions d'actualité avec des réponses un peu plus courtes s'il vous plaît. Une enquête pour violence volontaire et dégradation en Réunion a été ouverte après que des manifestants de la CGT ont été violemment pris à partie, c'était samedi lors des manifestations du 1er mai. Des policiers ont aussi été pris sur cible, ça suscite beaucoup de réactions, notamment Evelyne qui vous pose cette question. Les agresseurs de la CGT samedi étaient-ils d'extrême droite ou d'extrême gauche ?
Les agresseurs de la CGT, je l'espère, seront punis. Une enquête est ouverte. Mmh. Elle est entre les mains du parquet de Paris. Je voudrais vous dire mon émotion. Moi, je suis très attaché, bien sûr, à la liberté de manifester. Nous sommes attachés à cette liberté. Et d'ailleurs, des policiers paient parfois de leur intégrité...
Mais qui étaient les fauteurs de troubles samedi ?
Attendez. Paient parfois de leur intégrité physique cette volonté de protéger les manifestants. Mmh. Je ne peux pas en dire davantage. Une enquête est en cours. Vous savez que je ne peux pas m'exprimer là-dessus, mais nous sommes extrêmement vigilants. Et je voudrais dire ici mon émotion aux responsables syndicaux qui ont été agressés dans des conditions absolument insupportables. Mmh.
Le préfet de police de Paris a saisi le procureur de la République suite à la découverte également d'un tag injurieux appelant à la commission de crimes contre les policiers. Ce sont des menaces que vous prenez très au sérieux, qui vous inquiètent. Comment vous jaugez ça ?
Je les prends tellement au sérieux que j'ai participé aux côtés de Gérald Darmanin à l'élaboration d'un texte pour lutter contre le séparatisme. Mmh. Nous avons envisagé les menaces qui sont proférées à l'encontre de policiers et la mise sur les réseaux sociaux d'éléments permettant de les identifier aux fins d'aller les agresser. Je travaille sur la haine en ligne. Je voudrais d'ailleurs vous donner une excellente nouvelle qui est passée totalement sous les radars. Le Parlement européen vient de voter des dispositions qui permettent aujourd'hui d'enlever en une heure les contenus terroristes qui se trouvent sur les plateformes de certains réseaux sociaux. Ça, c'est un progrès absolument considérable. Oui, bien sûr que ça me préoccupe. Évidemment que ça me préoccupe. Comment pourrait-il en être autrement ?
La France a décidé d'extrader vers l'Italie 7 personnes, 7 anciens membres des Brigades Rouges responsables de crimes de sang, des faits datant des années 70. Cet après-midi, la Ligue des droits de l'homme a trouvé ce revirement inquiétant. C'est une violation du droit, dit la Ligue des droits de l'homme. Pourquoi maintenant ? Pourquoi 40 ans après ?
Écoutez, la Ligue des droits de l'homme dit ce qu'elle veut. Moi, je vais vous dire, monsieur, est-ce que nous pourrions accepter l'idée que les terroristes du Bataclan...
Vous avez déjà fait cette comparaison et la Ligue des droits de l'homme trouve ça totalement déplacé, ce qu'ils ont dit cet après-midi. C'est ce qu'ils ont dit cet après-midi.
Qu'ils disent un peu, la Ligue des droits de l'homme, le nombre de morts que l'on peut attribuer aux brigadistes.
Et ils disent également que la justice, à l'époque, leur a permis de rester sur le territoire.
Mais ce n'est pas vrai, monsieur. Il y a ce que l'on appelle la doctrine Mitterrand, qui a été d'ailleurs complètement dévoyée. Mitterrand avait dit, notamment à Bettino Craxi, les terroristes, les brigadistes, ex, peuvent rester en France, sous le statut de résident et pas de réfugié, d'ailleurs, je le note.
Quand ils n'ont pas commis de crimes de sang.
Voilà, vous avez répondu à la question, ils ont commis des crimes de sang, ils ont été jugés pour ça dans des procès qui sont des procès équitables.
Ça veut dire que pour cela, la France a eu tort de ne pas les renvoyer avant ?
Monsieur, écoutez, si l'Italie avait hébergé ou hébergé des terroristes islamistes ayant tué des centaines de personnes, je ne sais pas ce que nous dirions, et je ne sais pas ce que dirait la Ligue des droits de l'homme. Et puis Monsieur Cesare Battisti, qui était l'idole d'un certain vieux gauchisme en réalité, pour dire les choses. Monsieur Cesare Battisti, quand il a été arrêté, il s'est rendu en Italie, d'abord il a avoué les 4 meurtres. Il n'était plus innocent aux mains pleines. Ensuite il a dit que le procès était un procès équitable. Deuxièmement. Et troisièmement, il a dit que tous les intellectuels qu'il avait aidés, au fond, il se moquait bien d'eux. Voilà.
Donc la justice française a trop tardé, elle s'est trompée en attendant, en laissant ces gens ici pendant des années, des décennies.
Ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République a toujours été, très attentif à cette situation. Qu'il a évoqué la question avec son homologue italien à de nombreuses reprises, que c'est un des premiers dossiers dont il m'a parlé, que je n'ai personnellement, je l'ai dit, strictement aucun état d'âme, aucun, parce que la justice italienne à statuer. C'est une démocratie, c'est un pays européen. Et l'Italie a le droit de tourner la page de ce terrorisme le plus sombre.
Éric Dupond-Moretti, deux questions pour finir. Ça fait 10 mois maintenant que vous êtes garde des Sceaux. Visiblement, vous aimez faire de la politique. Est-ce que vous comprenez quelque chose à la cuisine électorale qui se joue en région PACA, avec Renaud Muselier, La République En Marche, les Républicains? Est-ce que ça vous intéresse aujourd'hui, ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ou est-ce que ça vous passe au-dessus de la tête?
Mais d'abord, pourquoi vous dites cuisine?
Parce que ça fait un peu tambouille, là. Quand on suit un peu tout ce qui s'est passé depuis hier, c'est pas très clair.
Moi, je trouve que c'est la réunion d'hommes, démocrates, républicains. Vous savez, moi, je crois pas trop au clivage gauche-droite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle...
Vous êtes dans le gouvernement d'Emmanuel Macron, Castex.
Et que ces républicains, démocrates, engagés, veuillent faire barrage au Front National... Moi, je trouve que c'est très bien.
C'est très bien. Vous ferez la campagne de 2022 ?
Oui, si on me le demande.
Et vous continuerez la politique après, si on vous le demande ?
Nous verrons.
Oh ben non, vous répondez aux questions.
Comme disent
les
procureurs, chaque jour suffit sa peine, c'est monsieur Soto. Nous verrons tout cela.
Question à l'avocat que vous êtes. Est-ce que maître...
Que j'étais.
Que vous étiez...
Pardonnez-moi.
Je pense que vous l'êtes toujours, mais... Est-ce que... Oui ?
Non, j'ai une tendresse particulière pour cette profession. Enfin, et c'est d'ailleurs cette profession qui légitime ma place aujourd'hui à la chancellerie et qui me nourrit, bien sûr, et qui me permet d'avoir de la justice, la vision que j'en ai.
Et bien justement, est-ce que de temps en temps, Maître Dupond-Moretti s'engueule avec le garde des Sceaux ?
Non.
Non ?
Non.
Aucun renoncement ? Vous êtes en ligne sur tout ?
Non, vous revenez sur cette histoire de cour criminelle ? Vous voulez que j'en touche un mot ?
Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est une question de fin, vous voyez, c'est... parce qu'on est déjà en retard.
Mais les choses ne sont plus les mêmes. J'étais avocat, maintenant je suis le garde des Sceaux, ministre des avocats, des huissiers, des commissaires-priseurs, des magistrats, des justiciables, de l'administration pénitentiaire. Je vais faire plaisir à Mme Le Pen, aussi des détenus. Voilà.
Ouais. Comme ça, elle est là demain matin. Si vous avez un message pour elle, elle vient demain matin chez Alba Ventura. Vous êtes toujours prêt à débattre avec elle?
Mais elle ne veut pas.
Elle veut pas.
Alors après, ça s'appelle un monologue, vous voyez.
Ouais. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti, d'être revenu ce soir dans RTL Soir. À suivre l'œil de Natacha Polnick, qui, elle, s'inquiète pour les Républicains. Tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
18h49, l'œil de Natacha Polony, un peu plus tard que d'habitude. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
L'annonce d'une alliance entre la République En Marche et les Républicains pour les régionales en PACA, on l'évoquait avec Éric Dupond-Moretti à l'instant, agite le landerneau politique. Est-ce qu'il faut y voir, selon vous, les prémices des recompositions à venir?
Alors oui, bien sûr, Renaud Muselier a nié aujourd'hui même le moindre accord d'appareil. Il ne prendra pas de ministre ni de parlementaire. Mais en fait, malgré ça, il y a quand même désistement de la République En Marche en faveur d'un républicain macro-compatible. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas grand-chose à voir avec les élections régionales et la spécificité de la région PACA. On est en train, en fait, de parler politique nationale, recomposition du paysage, et c'est tout le paradoxe. Alors que les régions ont des compétences élargies, majeures, en matière de transport, de formation, de gestion des déchets, et qu'on devrait s'y intéresser. Et en fait, de recomposition à venir, tout ça, c'est plutôt le résultat des ambiguïtés passées. Ambiguïté du côté de la République En Marche, puisque ce parti est né sur une promesse de dépassement des clivages au nom de l'efficacité, parce que entre gens raisonnables, on pouvait que s'entendre sur les politiques à mener. Sauf que ces politiques qui sont supposées être efficaces, on peine à voir pour qui elles sont efficaces, et elles ne sont surtout ni de droite ni de gauche, non, mais elles sont surtout de droite et de droite. Mmh. Et côté républicain, on paye des années à éviter soigneusement les sujets qui fâchent, à savoir la fracture sur les questions de mondialisation, d'Europe, d'identité.
En gros, il y a ceux qui penchent vers Emmanuel Macron et ceux qui penchent vers le Rassemblement National ?
Oui, même si faut quand même être lucide. Certains, malgré des positions qui sont plus proches du RN, ne s'allieront jamais avec lui pour des raisons historiques. Du coup, ils risquent la marginalisation. Mais le résultat, il est là. C'est qu'Emmanuel Macron fragilise la droite à un an de la présidentielle et il place une fois de plus le RN en pivot de la vie politique.
Oui, mais Renaud Muselier et Sophie Cluzet expliquent en chœur justement que cette alliance, c'est pour faire barrage au RN.
Oui, mais ça, c'est pas une politique. Au contraire, ça renforce le discours du RN qui se prétend à part, différent de tous ses partis, prêts à s'allier pour l'empêcher d'arriver démocratiquement au pouvoir, alors que la seule réponse au RN, ce sont des actions. En fait, c'est un joli cadeau au Rassemblement National, peut-être pas directement pour les régionales, mais peut-être à long terme, à horizon présidentiel, on n'espère pas.
À long terme, l'horizon présidentiel, c'est dans moins d'un an, hein, maintenant. On sera entre deux tours, je pense, à cette date-là. Merci beaucoup, Natacha Polony, directrice de Marianne. Demain, on retrouvera Philippe Cavrivière. Merci à vous, Natacha.
Merci.
RTL Soir, Thomas Soto.
Et c'est la culture de l'actu avec vous, Julia Moulcou. La Rochelle est en finale de la Coupe d'Europe de rugby. Ce sera face à Toulouse. Et donc, pour transformer l'essai ce soir, vous avez décidé de nous parler de ce département de la Charente-Maritime et de sa préfecture, c'est ça?
Les filles de la Rochelle, la 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 la. Les filles de la Rochelle.
On n'est pas trop dans la mêlée là.
Non, pas trop. On est sur un champ de marins parce que c'est quand même une cité maritime, une ville fortifiée. La Rochelle, c'est une ville magnifique, mais c'est surtout une ville courageuse qui affronte son passé pas toujours glorieux. Si au XVIIIe siècle, la ville s'est considérablement enrichie sur la traite des Noirs et était le deuxième port négrier français, et bien au XXe siècle, en 82 exactement, La Rochelle est devenue la première ville de France avec son musée du Nouveau Monde, à rassembler entre autres des carnets de navigation, des registres, mais aussi des gravures et des tableaux qui témoignent de cette époque bien sombre.
Le 21 mai prochain, dans quelques jours, on célébrera les 20 ans de la loi Taubira, cette loi qui reconnaît la traite et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. La ville de La Rochelle, Julia, a souvent été choisie comme décor de cinéma.
Eh bien oui. En 1980,
c'est beau là-bas.
C'est très beau. Steven Spielberg commence son tournage d'Indiana Jones et des Aventuriers de l'Arche Perdue à La Rochelle. Fabrice Luchini, lui aussi, arpente les rues de la ville lors du tournage de Beaumarchais l'Insolent en 96. Et puis bien sûr, c'est Claude Sautet qui choisit le vieux port de La Rochelle pour tourner certaines choses de la vie.
Non mais ça, vous voulez qu'on pleure en fait, c'est ça?
Je sais. Je sais, c'est le mood. Bon, et puis
attendez,
La Rochelle...
Attendez, j'ai
envie
de pleurer.
C'est à chaque fois.
Bon, bah allez-y, maintenant que vous m'avez brisé le cœur.
Ah, la chanson d'Hélène, Philippe Sard. Et puis La Rochelle, ce sont évidemment les Francopholies. Le festival de la scène francophone, créé en 85 par Jean-Louis Foulquier, et qui depuis, chaque mois de juillet, propose 5 jours de concerts en bord de mer. Et ils s'en sont passés des choses depuis 35 ans. C'est par exemple aux Francopholies que le chanteur Renaud, en juillet 86, arrive sur scène, une feuille de papier dans sa main tremblante.
C'est infiniment. J'ai écrit une chanson il y a 3-4 jours, on a répété seulement hier, donc c'est donc la première fois que je la chante. Ça s'appelle Putain de camion.
Putain, c'est trop con, ce putain de camion. Mais
Coluche.
Exactement. Quelques semaines avant, Coluche, le grand copain de Renaud, le parrain de sa fille Lolita, s'était tué en moto. Première fois donc que Renaud interprétait sur scène Putain de camion. Et dès le lendemain, toutes les radios réclamaient ce titre.
Tu nous plantes là.
T'as acheté un vélo.
Beaucoup moins de salauds. L'année suivante, c'est aussi lors des Francopholies que Patrick Bruel, cette fois-ci, écrit l'un de ses plus grands tubes. Alors qu'il vient de voir Jacques Higelin sur scène, Bruel a le sentiment de ne pas être le chanteur libre qu'il rêvait d'être. Ça lui colle le bourdon, il passe la nuit à boire, à discuter avec des gens, il traîne dans les rues de La Rochelle. Non, très clairement, il n'a pas envie de rentrer chez lui, il a plutôt envie de...
Casser la voix.
C'est la légende ou il a vraiment écrite là-bas la chanson?
C'est pas du tout une légende. Ouais. Il a exactement commencé d'écrire Casser la voix dans sa chambre d'hôtel en rentrant très tard dans la nuit à La Rochelle. Et puis il va la terminer 2 ans plus tard avec son compagnon, son comparse Gérard Presgurvic. Et le titre sortira en 89 sur l'album Alors Regarde.
Vous êtes vraiment une mininette, un prêt-à-tout pour mettre du Bruel. Parce que moi, je mets du Goldman partout. Enfin, c'est...
Jamais. Et on donne quand même les dates des Francopholies cette année.
14 juillet.
Exactement.
Et on Gérard Pont, le patron des Francopholies.
Et ben voilà, vous avez tout fait. Super.
Absolument.
Les amis qui s'en vont et les autres qui restent se faire prendre pour un con.
J'entends toutes les personnes dans leur voiture chez elles qui chantent en se cachant un peu. Tu connais parfaitement les paroles de cette chanson.
Les vieux
Et qui se disent, oh merde, c'est il y a déjà combien de temps?
S'il l'a écrit en 87.
Alors, on n'a plus assez de doigts.
Hein. Ça fait 35 là. Hein.
Et les journaux qui traînent, comme je traîne mon ennui, la peur qui est la mienne quand je me réveille.
C'est vrai que seule dans ma douche je la chante, mais là je peux pas. Allez, merci beaucoup Julia. Peggy.